Bienvenue dans le podcast de la Maison des Femmes. Malom alam, ça signifie bienvenue.
Bienvenue.
Bienvenue. Kër Jigéni, la Maison des Femmes.
Ici, ce sont les voix des femmes.
Ici, les femmes vous parlent.
Ici, baganagan uften manadubartota. Galatoma.
Kadınlar evine hoş gelmişsiniz.
Bienvenue à la Maison des Femmes.
On est serein Guinée Roy au pas des Nara.
Ici, ce sont les journalistes de la Maison des Femmes.
Les femmes vous parlent des addictions.
Aujourd'hui, on vous parle de l'addiction de l'alcool et du tabac. Murray Boyle, Marie-Gorette, et nous sommes ici à la Maison des Femmes, nous sommes trois. Je suis avec Elisa et Aminata. J'aimerais bien qu'on discute à propos de l'addiction du tabac et de l'alcool. C'est un problème dans la société qui nous entoure. Beaucoup de gens qu'on se connaisse et parmi nos amis, parmi nos connaissances, parmi les familiers, on trouve beaucoup de problèmes liés à l'addiction du tabac et de l'alcool. Et j'aimerais bien vous poser une petite question. Est-ce que vous connaissez une addiction? C'est quoi une addiction? Et pour toi, est-ce que tu as une addiction à quelque chose?
Moi-même, je n'ai pas l'addiction sur moi. C'est juste avec les gens que j'ai connus. Je peux dire au niveau de l'alcool, il y a des gens, quand ils ne boivent pas, ils ne sont pas à l'aise. Donc, pour être à l'aise, ils doivent boire l'alcool. Et puis, la manière qu'ils boivent, là, c'est pas comme une bouteille, deux bouteilles. Ils abusent, en fait. Et quand ils abusent, ils font des choses. Ensuite, à la fin, ils ne se rendent pas compte de ce qu'ils ont fait.
Merci, Elisa. Tu viens de dire qu'ils font quelque chose. Tu peux préciser, s'il te plaît?
Par exemple, moi, en Afrique, il y a des hommes, quand ils boivent, ils se battent. Les femmes, à chaque fois, sans des raisons. Et hormis ça, ils demandent à coucher avec les femmes sans leur volonté, en fait. C'est comme s'ils sont des dieux. Donc, c'est l'alcool qui leur contrôle. Donc, c'est ce que j'ai l'expérience sur ça.
Quand tu étais au pays, comme tu viens de me dire, en Afrique, quand tu voyais les hommes qui ont bu, est-ce que tu te rendais compte que c'est une addiction? Comment tu voyais cette action?
Je ne me rendais pas compte que c'était une addiction. C'est juste en France, maintenant, à la maison de la MAF, où on parle. C'est aujourd'hui même que j'ai su que ça s'appelle addiction. Moi, je me disais que c'est juste quelque chose qui est normal. Or, au fond, c'est quelque chose qui est anormal pour la personne. Donc, je ne savais pas que ça s'appelait l'addiction.
Je comprends parce que j'ai une phrase qu'on dit en Afrique qu'un homme doit boire. Un homme qui ne boit pas l'alcool, ce n'est pas un homme. Ça, ce sont des mots que les hommes africains utilisent pour qu'ils montrent qu'ils sont très, très beaux. Je vais m'adresser toujours à Lisa. Est-ce que, à part des hommes, tu connais aussi les femmes qui sont dans l'addiction à l'alcool? On parle ici de deux choses, alcool et tabac.
Oui, j'ai connu des femmes aussi. À deux fois, ils étaient très amoureux de l'homme. Le fait que l'homme l'a vraiment blessée, elle directement, elle s'introduit dans l'alcool. Donc, pour oublier la manière que l'homme est parti, la manière que l'homme l'a laissé. Donc, elle se dit que là, je suis inférieure à tout le monde parce que la personne qui me donnait la force n'est plus là. Donc, je dois être accro à la boisson, au tabac. Donc, il y en a beaucoup des femmes. Les femmes souffrent même plus que les hommes au niveau de l'alcool et au niveau du tabac. C'est ce que moi, j'ai remarqué. Parce qu'une femme, quand elle est accro dans ça, c'est pas facile d'en sortir. C'est pas facile. Elle laisse même les enfants, elle oublie même qu'elle a les enfants. Elle laisse son corps, elle est vraiment négligée, elle n'a pas le temps de prendre soin d'elle. Parce qu'elle se dit que s'il n'y a pas l'alcool, je n'ai pas la vie. S'il n'y a pas l'alcool, je n'ai pas la force. Donc l'alcool est devenu prioritaire dans sa vie.
Oui, je m'adresse à Aminata. J'aimerais bien te demander une petite question. Est-ce que quand on parle de l'addiction, surtout à l'alcool, pour les femmes, est-ce que les femmes réagissent de même manière?
Moi, j'ai vu, c'était un ami, quand il prend l'alcool, il peut coucher avec n'importe qui. Il va se présenter devant lui.
Et la réaction de cette femme, après avoir bu, elle a envie de coucher avec un homme.
Oui, oui, c'est obligatoire pour lui. S'il est dans un bar, peut le faire même là-bas, aux toilettes, pour qu'il se sente bien. C'était comme ça.
C'est une amie d'Aminata. Merci de nous partager ton expérience. À part de ça, tu ne connais pas une autre expérience au tabac, par exemple?
Moi-même, un jour, j'ai essayé ça. Parce que j'étais pas bien, j'avais beaucoup de problèmes. L'ami là, elle m'a dit non, faut essayer, ça fait rien, ça va t'aider. Mais j'ai essayé, c'était pas pour moi.
J'ai la curiosité, je voulais te demander comment tu te sentais. Si tu compares le moment où tu n'es pas pris et le moment où tu avais déjà pris l'alcool, est-ce que tes problèmes étaient résolus? Tu te sentais comment?
Non, c'était une fois seulement. J'ai essayé parce que tu peux avoir des problèmes. Tu prends l'alcool. Quand ça termine, les problèmes sont toujours là.
Aminata, je continue à te poser une autre question. Est-ce que quand tu vois cet ami, vous vous connaissez, et tu peux comparer sa santé avant de consommer beaucoup d'alcool et du tabac, et après, tu peux nous dire un peu?
Elle ne va pas bien parce qu'elle a fait deux enfants, elle ne connaît pas les pères des enfants. Elle souffre beaucoup.
Est-ce que cette personne, cette amie, elle se rend compte qu'elle a l'addiction? Est-ce qu'elle essaie de parler aux autres personnes à part de toi? Surtout que maintenant tu es en France et elle est loin de toi. Elle n'a pas quelqu'un à se confier. Est-ce que tu sais si il y a les autres qui sont au courant qu'elle a l'addiction de l'alcool?
Oui. Tout le monde sait qu'elle est comme ça. Sa vie, c'est pas seulement comme ça, tout le monde. La famille, les amis, on lui demande à des fois, elle pleure, elle se demande pourquoi je suis comme ça, pourquoi. C'est une bonne fille, elle se comporte pas mal si elle est normale. Elle est calme, mais vous allez voir, elle sort, elle prend ça. Désolée, elle est assez forte, mais elle lève les habits devant leurs enfants. Elle se comporte bizarre.
Je vais parler de la dame que je l'ai connue en France, à Laval, à Resto du Cœur. Je l'ai connue là-bas. Cette dame aujourd'hui, elle m'appelle beaucoup. Je connais ce qu'elle souffre. Elle me dit, c'est pas facile de te faire confiance et c'est pas facile que j'expose mes problèmes envers toi. Et puis elle me dit, donc à chaque fois quand elle discute avec son mari, elle m'appelle. Donc quand je vois son appel, je sais que ça ne va pas. À deux fois, dès 6 heures, j'ai des longs messages qu'elle me laisse. Elle me dit, je ne peux pas laisser cet homme parce que tout cet argent que j'avais, c'est cet homme-là qui m'a... C'est-à-dire l'économie qu'elle avait, l'homme a tout bouffé, les 14 000 euros. Aujourd'hui, je n'ai pas un bon travail, je ne travaille pas 35 heures comme les autres. C'est juste 2 à 3 jours et puis donc... En tout cas, je dépends à cet homme. Mais aujourd'hui, l'homme-là, le travail, la femme n'a plus le travail à chaque fois. Moi, j'ai dit, si pour les hommes, je n'ai pas assez d'expérience, mais il y a des hommes qui viennent juste dans la vie des femmes pour chercher ce qui leur attire. Quand tu n'as plus ça, ils te prennent, c'est comme si tu es devenu quelqu'un qui n'a pas de sens. Donc, c'est mieux que tu laisses cet homme. Et malgré ça, elle continue toujours à boire quand elle ne boit pas. Elle n'est pas bien. Quand elle ne fume pas, elle n'est pas bien. Je lui ai même demandé, je vais t'emmener à la maison de la femme pour que y a des gens, tu vas discuter. Il y a les psychologues, ils sont là-bas, ils vont... Tel que nous autres aussi, on avait des problèmes, mais aujourd'hui, je me sens à l'aise. C'est parce que j'ai eu des gens à la MAF qui m'ont vraiment, vraiment beaucoup aidée. Donc, c'est ce que je demande à la dame. J'ai fait vraiment l'effort de l'amener ici, là. J'ai dit, cet homme, il est en train de te détruire mentalement et physiquement parce que tu ne prends pas soin de toi. Tu es une belle femme. Mais au fur et à mesure, elle me dit, ce que tu me dis là, c'est vrai. Ce n'est pas facile d'en sortir. Elle me dit, j'ai nulle part où aller. Elle m'a dit, je n'ai pas de logement. Si j'avais là où habiter, je devais déjà quitter cet homme depuis. Mais je n'ai pas nulle part où aller, je ne sais pas comment je vais dormir. Donc la solution que j'ai trouvée, je vais l'amener à la Citadelle. Parce que la Citadelle, c'est une place pour des femmes qui sont victimes de violences comme elle. Marie, est-ce que l'addition du tabac et l'addition de l'alcool fonctionnent de la même manière?
Oui, vu dans mon expérience, l'addiction à l'alcool va directement avec l'addiction au tabac. Ce sont les deux choses qui se complètent. Et il y a l'expérience que je vois tout le temps... Surtout si les personnes qui boivent, ils ont aussi les cigarettes dans la main. Moi, j'ai habité beaucoup des années à Arte de Nuit, 2 ans, plus de 2 ans. Et je voyais beaucoup de personnes ivres. Le matin, moi, j'appelle Palais Loyal. C'est mon Palais Loyal parce que j'ai habité plus de 2 ans, malgré que... On sort le matin, on rentre le soir. J'étais habituée avec mes enfants. Tout le monde connaît tout le monde là-bas. Surtout dimanche, on restait à la gare avec les hommes qui sont logés de l'autre côté. Immédiatement, on sort le matin à 8 heures, on voit les personnes qui commencent à boire. Des fois, je me demandais comment ils cachent l'alcool alors qu'à Arte de Nuit, c'est interdit de faire entrer les boissons alcoolisées. J'ai découvert qu'un des fois, il cache. Ça, c'est une addiction. Une personne est déjà addictée. Il connaît tous les manigances pour trouver son alcool. Donc, c'est plusieurs bouteilles, plusieurs années ou des fois, plusieurs fois. Et puis, ça devient addiction.
Moi, je suis Gabrielle, je suis infirmière depuis à peu près 9 ans maintenant. Je travaille dans l'association Enosia, donc pas directement au sein de la MAF, mais juste dans un autre dispositif. Et aujourd'hui, je suis là parce que j'ai travaillé pendant 2 ans auprès des personnes qui souffraient d'une addiction. Voilà pourquoi aujourd'hui, on va discuter ensemble.
Gabrielle, moi, je voulais savoir qu'est-ce que c'est l'addiction ?
Pour moi, simplement, l'addiction, c'est quelque chose dont on ne peut pas se passer. C'est la prise de quelque chose, de produit ou un comportement dont on ne peut plus se passer. Et si on arrête, on aura aussi des conséquences négatives. C'est-à-dire que si j'arrête l'alcool alors que je suis addict, ça peut me mettre en danger pour ma santé.
Moi, je voulais savoir si, avec aussi les traitements, personne ne peut changer dans cet état, si est possible.
En fait, il y a des traitements qui existent pour aider quand on souffre d'une addiction, mais pas pour tous les produits. Il n'y a pas forcément un traitement qui répond à une addiction. Il y en a pour le tabac, par exemple, pour l'alcool, pour l'héroïne, qui est une drogue très très puissante, mais il n'y en a pas, par exemple, pour la cocaïne. Il n'y en a pas pour des médicaments comme le Valium, qui est un médicament. Ça, il n'y a pas de traitement. Mais quand on a un traitement, c'est plus facile pour arrêter. Mais il n'y a pas que le traitement. Il faut plein d'autres choses pour arrêter une addiction.
Comment tu trouves l'action à la personne après avoir consommé ces alcools et ces drogues?
On va dire qu'il y a tout le temps un changement de quelqu'un qui n'a pas consommé. Il va consommer et il va changer de comportement. Tout le temps. Je trouve toujours une modification du comportement. Mais ça dépend des personnes. Il y a des personnes, quand je les ai vues consommer, après elles sont plus calmes. Il y en a d'autres, après elles sont plus tristes. Il y en a d'autres, elles sont plus énervées. Ça dépend. Donc, il n'y a pas vraiment une seule réponse. Par contre, c'est sûr qu'il y a un changement de comportement. Et je pense que c'est pour ça aussi que les personnes consomment. Elles veulent changer un comportement.
Ça m'a donné la curiosité. Il y a des autres personnes qui sont toujours agitées. Mais quand ils consomment l'alcool, ils sont calmes. Je pense que cette addiction est positive. Qu'est-ce que vous en pensez?
Alors, c'est marrant parce qu'il y a des gens, quand on travaille en addicto, donc avec les personnes qui souffrent d'addiction, on ne force plus les gens à arrêter. C'est-à-dire que c'est plus aujourd'hui le seul soin qu'on leur apporte, c'est plus le sevrage. Le sevrage, ça veut dire arrêter de consommer. Aujourd'hui, on peut travailler avec eux sur pourquoi ils ont bu, pourquoi tout ça. Parce que effectivement, il y a des gens qui consomment, ça leur font du bien. Ils n'ont pas de graves conséquences. Et donc, le fait d'arrêter serait plus grave pour eux à un moment. C'est-à-dire que quelqu'un qui boit parce que, effectivement, il est très triste, c'est pas une solution, pas du tout. Mais pour l'instant, ça lui fait du bien. Du coup, il faut plutôt agir sur pourquoi il est triste et pas le fait d'arrêter de l'alcool tout de suite. Il y a des gens qui sont addicts et heureux. Voilà, il y a des gens qui ne veulent pas arrêter. Par contre, il faut se demander pourquoi ils ont consommé à un moment et agir sur la raison qui a fait qu'ils ont consommé.
Nous, en Afrique, à deux fois, les gens disent que boire un peu, ça fait bien dans la santé. Je veux savoir si c'est vrai ou faux.
Alors, dans toutes les formations que j'ai eues, en France, ça a été pareil. En France et en Europe, je pense. On a souvent dit qu'un verre de vin, ça faisait pas de mal à la santé. Pendant longtemps, on l'a dit. Dans les dernières formations que j'ai eues avec des docteurs, psychiatres, addictologues, c'est faux. Aujourd'hui, chaque verre qu'on prend compte et chaque verre qu'on consomme peut nous faire du mal.
Suite au traitement aux personnes qui ont l'addiction, et j'aimerais savoir, est-ce que vous avez les cas des personnes qui arrivent à laisser carrément leur boisson ou bien leur truc, là, ils étaient addicted?
Oui, ça arrive. Ça arrive qu'il y ait des gens qui arrêtent complètement leur addiction. Mais c'est un gros travail, à la fois avec le traitement dont on parlait tout à l'heure quand il en a un, à la fois en travaillant sur pourquoi les gens ont commencé, pourquoi à la base ils ont commencé à boire ou pourquoi à la base ils ont commencé à fumer. Tu disais tout à l'heure, toi, on t'en a proposé une quand tu étais stressée. Et donc, pour guérir quelqu'un d'une addiction, il faut travailler sur tous ces facteurs-là. Pourquoi il a commencé à boire ou à fumer? Pourquoi c'est dur de s'en passer? C'est pas les termes exacts, mais on travaille à la fois sur l'environnement, à la fois sur la biologie, donc ce qu'on a en soi, et à la fois avec l'entourage, voilà. Mais ça arrive, évidemment, heureusement, il y a des gens qui veulent arrêter et qui arrivent à arrêter.
Ah, merci. J'ai une autre petite question de curiosité. Et des fois, il y a les personnes qui ne veulent pas connaître qui sont l'addiction. Et comment les personnes viennent vers vous pour se faire soigner.
Alors effectivement, dans l'addiction, il y a beaucoup de personnes qui ne veulent pas arrêter ou qui ne se rendent pas compte qu'ils souffrent d'une addiction. Et du coup, ce qu'il faut mettre en place, c'est un peu ce que nous disait Elsa tout à l'heure, c'est la confiance. On reste après avec la personne, on ne la juge pas, on écoute ce qu'elle nous dit, pourquoi elle va pas bien, pourquoi elle boit, pourquoi elle fume. Et en créant du lien et en étant une personne ressource sur qui elle peut s'appuyer, comme Elsa tout à l'heure, elle nous expliquait que son amie l'appelle parce qu'elle a confiance en elle. Et donc c'est comme ça qu'on peut travailler quelque chose. D'abord, on fait de la confiance avec la personne, on la juge pas, on la rejette pas parce qu'elle boit ou parce qu'elle fume. Et le moment où elle sera prête, elle saura qu'elle peut appeler, qu'elle peut nous appeler et qu'on peut arrêter avec elle, qu'on peut l'aider à arrêter.
Comment tu commences à faire un premier pas pour arriver à cette personne?
Eh bien, en fait, le premier pas, il faut qu'il vienne de la personne elle-même. On n'arrête pas si on n'a pas envie d'arrêter. Pour que la personne s'en rende compte, eh ben, il faut discuter avec elle, peut-être. Voilà, la discussion.
Par exemple, dans la rue, on voit les gens qui circulent avec les bouteilles. Directement, moi, quand je les vois, avec un peu d'expérience, je dis, cette personne, il a l'addiction à l'alcool. Parce qu'il n'a pas honte. Des fois, il s'assoit devant les magasins ou bien il s'assoit sur les arrêts de bus, dans les places publiques. Vous pensez que ces personnes, ils ont l'information qu'il y a un endroit là où ils peuvent aller? Est-ce que vous, là où vous travaillez avant, quelle technique utilisez-vous pour approcher ces personnes pour qu'ils se rendent compte? Parce que nous, dans la société, quand vous créez l'association, c'est pour que votre association soit utile, ou bien si c'est un endroit de se faire soigner, cabinet médical, il faut qu'il soit utile dans la société. Quelle approche utilisez-vous pour approcher ces gens?
Pour aller les chercher, il y a plusieurs manières de faire. Il y a à la fois ce qu'on appelle l'aller vers, aller vers la personne avec des services de camions qui circulent dans l'aval, par exemple, et qui vont aller voir les personnes comme ça, qu'on voit consommer, les personnes à la rue qui boivent, par exemple. Ça peut être une technique. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ça se développe, les équipes mobiles, on appelle ça. On est mobile, on bouge et on va vers les personnes. Après, il y a une autre manière de faire en addicto, ça s'appelle la réduction des risques. C'est-à-dire qu'on ne va pas la forcer à arrêter tout de suite parce qu'il ne va pas vouloir. Par contre, on peut lui proposer de réduire les risques pour sa santé. Donc ça veut dire peut-être qu'on va lui donner de l'eau, une bouteille d'eau, pour qu'il puisse boire un peu d'alcool, mais aussi beaucoup d'eau, pour le stabiliser. Après, pareil, il faut se réfléchir toujours, j'en reviens toujours à ça, mais pourquoi la personne, elle boit dehors? Parce que peut-être elle est à la rue. Et que du coup, pour tolérer le fait d'être à la rue, alors qu'il fait froid, alors qu'elle n'a pas de logement, alors qu'elle est triste, eh ben peut-être qu'elle va boire de l'alcool. Et donc si on donne par exemple un logement à cette personne, elle aura peut-être besoin de moins boire. Si on lui donne un travail, elle va s'occuper, elle aura peut-être besoin de moins boire. Il n'y a pas une seule solution, il faut travailler sur tout ce qui entoure. On dit souvent que les gens qui boivent, c'est pour se détruire. En fait, c'est faux, ils boivent pour survivre à la base. Et après, il faut reconstruire derrière.
Cette citation, ça abîme beaucoup de familles. Ça détruit les familles, les foyers. Ici en France, on peut faire quelque chose pour faire une stratégie de l'approcher. Si on ne fait rien aussi, on va pas savoir qui a besoin de l'aide.
C'est très très dur d'accompagner quelqu'un qui souffre d'addiction parce que tout le monde souffre autour. La personne souffre, l'entourage souffre et c'est très très dur. Effectivement, la prévention, ça va permettre d'en discuter et d'éviter que ça empire. Mais il n'y a pas de solution miracle à quelqu'un qui prend des produits et qui en est addict. Il n'y a pas de solution miracle. Sinon, il n'y aurait pas de personnes malades. Donc, ce qu'il faut faire quand on est face à une personne, je crois que c'est un peu ça, en gros, ta question, comment on peut aider quelqu'un, en fait, à part écouter et à part tendre une épaule pour que la personne se repose sur nous, il y a très peu de solutions. Par contre, il faut penser aussi à protéger la famille. Et protéger, si la personne te parle et te dit qu'elle va pas bien et tout ça, il faut aussi penser à se protéger soi. C'est pas facile d'entendre quelqu'un qui souffre, c'est vraiment pas facile. Nous, pendant 2 ans, quand j'ai travaillé avec ces personnes-là, on avait un suivi psychologique. On avait des séances où on parlait du fait que c'était dur, que les gens n'aillent pas bien en face de nous. Il faut protéger tout le monde, il faut protéger la personne et il faut se protéger soi. Donc, il faut en parler tous ensemble, il faut dire si ça va pas aussi. Mais j'ai pas de solution miracle, non. Il faut se faire aider, trouver les bonnes personnes. Il y a des gens spécialistes, il y a des psychologues spécialistes, il y a des médecins spécialistes, il y a des infirmières spécialistes. Des fois, juste un ami, ça suffit. Voilà, il faut trouver les bonnes personnes, mais on s'en sort jamais seul et la famille ne s'en sort pas seule non plus, l'entourage non plus. C'est très très compliqué et c'est très frustrant, souvent pour les personnels de santé, comme moi par exemple, ou pour vous qui voilà, avez connu des personnes en situation d'addiction, c'est très très compliqué. Parce que des fois, on n'a qu'une envie, c'est qu'ils s'en sortent. On a envie de les secouer et de leur dire « Mais pourquoi il n'arrête pas ?» Et c'est plus compliqué que ça. Et voir ça, c'est pas facile. C'est pas facile, mais voilà. C'est une maladie très compliquée à gérer. C'est pas une maladie, on a le traitement, il guérit, il va bien. Non. Pour se protéger soi aussi, des fois, il faut accepter qu'on puisse pas sauver coûte que coûte la personne. Et il faut aussi s'autoriser à prendre du recul, s'en aller un moment pour se protéger soi. On peut pas être la bouée de sauvetage de quelqu'un des années, ça marchera pas. Donc il faut aussi s'autoriser des fois à ne pas aider tout de suite et à prendre du recul, à s'en aller, quitte à revenir après. Mais voilà, il faut jamais s'en vouloir de pas rester jusqu'au bout. Surtout que souvent, avec l'alcool ou d'autres produits, les personnes peuvent réagir violemment, peuvent être méchantes, peuvent être agressives. Et ça, c'est pas tolérable. On peut pas aider coûte que coûte. Des fois, il faut voilà, rappeler que c'est interdit, la violence. Même si la personne a bu, même si la personne souffre, on peut pas tout tolérer. Voilà. Et il faut justement réorienter vers des professionnels qui, eux, vont mettre un cadre et peut-être envers qui la personne n'osera pas être violente. La personne addict peut faire souffrir beaucoup son entourage. Des fois, il faut les mettre à l'abri, cet entourage, les éloigner, parce qu'on ne peut pas tolérer la violence d'une personne, même si elle souffre et même si elle est addict à quelque chose.
Gabrielle, je voulais savoir s'il y a la différence entre hommes et femmes pour l'addiction.
Il y en a même plusieurs, puisqu'en fait, on n'est pas fait de la même manière. Une femme, en général, elle a moins de poids qu'un homme, elle est plus petite, elle a plus de graisse, et donc l'alcool, par exemple, ne va pas dans le corps de la même manière. Et donc une femme, par exemple, elle va être ivre plus rapidement qu'un homme. Ce qui fait aussi qu'elle va être peut-être plus vite addict, parce que du coup, l'alcool va rentrer plus facilement, se diffuser plus facilement, va faire beaucoup plus d'effets et donc va être beaucoup plus agréable. Et donc, une femme va tomber, entre guillemets, plus rapidement dans le cercle de l'addiction. Ça s'explique par plein de facteurs neurobiologiques dont je ne connais pas tout, mais ça s'explique. On a aussi des hormones différentes, une sensibilité à cette hormone-là plus différente. Et donc ça va nous procurer plus rapidement plus de plaisir et donc pareil, on va vouloir reconsommer plus rapidement. Ça, c'est une réalité. Et il y a aussi une grosse différence qui est environnementale et qui est sociétale, c'est-à-dire que, comme tu disais tout à l'heure, en Afrique, on dit un homme, il doit boire. On dit aussi qu'une femme ne doit pas boire. Une femme, elle doit être présentable, elle doit être jolie, on ne peut pas la voir ivre dans la rue. Elle va être très très mal jugée. Donc il y a une différence, c'est que les femmes, du coup, elles peuvent être addictes à quelque chose, mais elles savent que c'est mal vu. Elles vont se cacher. Elles vont boire en cachette. Elles vont pas le montrer. Et donc, elles vont arriver à des stades beaucoup plus importants de l'addiction et vont être, du coup, prises en charge à l'hôpital, si on veut résumer, elles vont être face à un médecin beaucoup plus tard, puisqu'elles vont le cacher beaucoup plus longtemps. Donc c'est un peu ça les différences, c'est qu'il y a à la fois une prédisposition, donc ça veut dire on est plus facilement addict, et en plus de ça, on est pris en charge, pris en soin beaucoup plus tard. Ça, c'est des généralités. Après, effectivement, chaque cas est différent, mais voilà les grosses différences entre hommes et femmes.
C'est les réactions à l'addiction pour l'homme et femme. Par exemple, il y a ceux qui sont violents. Est-ce que vous avez remarqué que ce comportement de violence et peut apparaître sur une femme aussi?
Ça arrive, l'alcool, pour reprendre ce produit-là, il modifie le comportement de tout le monde. Donc une femme, elle peut être violente, évidemment, ça peut arriver.
Je suis Michaëlle, animatrice socio-éducative et sophrologue à la maison d'accueil pour femmes.
Michaëlle, bonjour.
Bonjour.
Moi, c'est Aminata. Je voulais savoir, vous étiez à la cigarette. Et est-ce que tu peux nous expliquer comment c'était, comment tu as passé? On veut savoir.
Voulais savoir mon histoire avec le tabac. C'est une grande histoire. Mon histoire a commencé à 13 ans, à peu près. J'ai fouillé dans les tiroirs de la maison et je suis tombée sur le paquet de cigarettes de mes parents. Et comme c'était interdit, j'ai adoré franchir les interdits. J'étais toute seule, il n'y avait personne à la maison et j'ai essayé. J'ai trouvé ça dégueulasse. Ça, c'est sûr, c'est vraiment le souvenir que j'ai. Mais par contre, de faire de l'interdit, ça m'a beaucoup plu. Et j'étais très mal aussi, j'étais pas bien dans ma peau. Voilà, très frustrée, j'étais très en colère, j'avais beaucoup de colère. Et donc, voilà, de faire quelque chose qui était interdit par mes parents, je pense que j'ai pris beaucoup de plaisir à faire ça. Ça a commencé par ça. J'ai commencé, c'est interdit, donc je vais le faire, je vais m'affranchir de mes parents, ça va les embêter. Voilà comment j'ai commencé, tout bêtement, parce que je pense que quand on commence le tabac, on commence ça bêtement. Voilà, et suite à ça, j'ai continué, parce que j'avais des copains, des copines qui fumaient, parce que c'était dans les années 80, 90, donc tout le monde fumait aussi. Ici, maintenant, dans les années 2020, il n'y a plus de publicité à la télé. Moi, je me souviens voir mes professeurs fumer à l'école. Aller au cinéma, on fumait au cinéma. Aller au tabac, au bar, tout le monde fumait. Donc, c'était quelque chose qui était habituel. Je me souviens aussi, quand j'étais petite, mes parents, c'était rare, mais pouvaient fumer aussi dans la voiture. Donc, c'est plein de choses, plein d'habitudes qui étaient, à notre époque, plus abordables. Le tabac, au niveau du prix, était facilement accessible aussi. Donc voilà comment j'ai commencé et comment j'ai continué aussi par mimétisme autour de moi. J'ai fait comme les autres. C'était, à mon époque, accepté de fumer. Mes parents n'ont pas osé, parce que quand on fume, on sent la cigarette. Et je pense que mes parents se sont rendus compte que je fumais et ils n'ont pas voulu, ou ils ne savaient pas, aborder le sujet avec moi. Donc, ils sentaient que je sentais la cigarette. Ils faisaient comme si personne ne voyait, parce qu'eux-mêmes fumaient. Et ils savaient que c'était pas bien. Et que, indirectement, c'était un peu eux qui m'avaient mis dessus. Donc, voilà. Donc, on taisait un petit peu le sujet. Voilà. Et puis, vers 17 ans, j'ai fumé devant mes parents et ça posait aucun souci. Et j'ai continué, voilà, jusqu'à ce que j'aie des enfants. Et donc là, à ma grossesse, j'ai arrêté. Il y a eu quelque chose en moi qui a fait que... Voilà, j'ai arrêté. Et pendant 10 ans, j'ai pu arrêter la cigarette. Et puis, ça me manquait. Donc, bêtement, j'ai recommencé. Je pense que la cigarette, c'est une addiction très forte. C'est très, 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 très fort. Je m'en rends bien compte. Au niveau du corps, quand j'arrête, je peux sentir un manque. Je peux avoir envie de manger. Il faut que je boive énormément d'eau. Au niveau du goût, des choses, voilà, au niveau de ma langue, je sens qu'il y a des choses... L'odorat qui revient aussi, les goûts, ça améliore quand j'arrête, mon souffle, voilà, qui est beaucoup mieux. Mais je me rends bien compte, je suis mal face à mon addiction. Mais j'ai comme un petit truc dans le cerveau qui me dit « Allez, allez, t'inquiète pas, une, ça va aller. » Et c'est très complexe de se sortir d'une addiction. Et c'est pas évident non plus d'en parler. Parce que c'est se mettre en face de ces réalités.
On a beaucoup abordé l'addiction sur le thème de on est triste ou on, voilà. Mais il y a des fois on consomme pour autre chose, parce qu'on a envie de braver l'interdit, ou parce qu'on commence parce que ça nous procure un plaisir. Boire un verre de vin, par exemple, moi ça me procure du plaisir de temps en temps. Et des fois, le cerveau se dit « Tiens, c'était pas mal et j'ai envie de ressentir ça. » Et donc on reconsomme, et on reconsomme, et on reconsomme. Des fois... C'est pas parce qu'on est triste ou c'est pas parce qu'on va pas bien, c'est parce que le cerveau aussi se dit « Tiens, ça j'ai bien aimé, il m'en faut plus, il m'en faut plus, il m'en faut plus, il m'en faut plus. » Voilà, juste parce qu'il n'y a pas que le malheur aussi, des fois c'est juste le cerveau, notre manière de fonctionner, ça nous a apporté un plaisir et le cerveau il est pas bête, il a bien aimé donc il en veut plus. C'est aussi comme ça que des fois on tombe dans l'addiction. D'ailleurs la preuve, l'alcool et le tabac sont autorisés en France, c'est pas illégal de boire un verre en France.
Merci beaucoup, vous tous. Aujourd'hui, j'ai un plus dans ma vie. J'ai 42 ans, mais addiction, j'ai attendu seulement aujourd'hui qu'il y a des additions pour alcool et tabac. J'ai pris ça aujourd'hui. En tout cas, merci beaucoup.
J'ai appris beaucoup de choses à l'addiction. C'est le moment où je me suis rendu compte que c'était un problème pour toute la société. Vous devez être fiers ici en France parce qu'au moins vous avez quelques personnes que vous pouvez aider et vous avez des organismes différents d'aider ces gens. C'est une bonne chose pour la France, c'est une bonne chose pour la population. Et merci beaucoup pour nous partager beaucoup des choses qu'on ne connaissait pas. C'était un combat qu'on doit participer. Merci.
Moi, ce que j'ai appris, c'est que vous savez déjà plein de choses. Voilà, donc merci à vous. Qu'il y a plusieurs cerveaux, on arrive à trouver des solutions. Qu'on n'est pas des sauveurs et qu'il vaut mieux penser à soi quand on côtoie des personnes qui peuvent boire parce qu'ils peuvent être violents. Donc peut-être de les aider, c'est de partir aussi pour se mettre à l'abri et qu'ils fassent face à leurs problématiques. Et que moi j'ai passé un très très bon moment. Donc moi je vous dis au troisième rendez-vous.
Moi j'ai passé un très bon moment aussi. Ce que j'ai appris, c'est que tout le monde en fait... personnellement a une histoire avec l'addiction. Ça nous touche pas forcément nous, mais ça touche toujours quelqu'un de notre entourage, quelqu'un qu'on connaît, quelqu'un qu'on a entendu. Voilà, donc ça touche vraiment tout le monde. Et ce que je voulais rajouter, ce que j'ai pas dit tout à l'heure quand on disait comment on peut aider quelqu'un, c'est surtout le ramener vers les professionnels. Il y en a plein des professionnels en France, justement, c'est une chance. On a plein de personnes formées à aider les gens et il faut pas tout prendre pour soi, il faut accompagner vers le professionnel, vers les infirmiers, vers les médecins.
Dans cet épisode, Marie, Aminata et Elisa ont posé leurs questions, guidé les échanges et exploré ce sujet à leur manière. Un podcast participatif accompagné par Margot Doucet.
Merci à Lénaïque Folzour qui signe la musique originale de ce podcast.
Vous venez d'écouter deuxième épisode du podcast de la Maison des Femmes. Rendez-vous à la troisième.